L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
L'été indien sur les rives de la Seine. Les remous, les vaguelettes et les courants s'entremêlent dans une symphonie presque mystique ou diabolique, c'est selon. Juste devant nous, le château de Villequier, dont nous sommes tout proches. Plus précisément, son magnifique parc qui donne sur le fleuve. Là, derrière une lunette d'observation, Madame Vacry attend pour le déjeuner son fils et sa belle-fille, enceinte de 3 mois. Ils ont pris un canot de course pour se rendre chez le notaire, faire affaire. Mais sa vue semble lui jouer des tours, car la vieille femme, dans sa tenue de lin bleu, est persuadée que le canot est en perdition. Elle appelle un de ses pilotes et s'exclame « Enfin, regardez vite, je ne vois plus clair, il semble que le bateau est de côté !» Le pilote regarde et ment. « Mais non, madame, ce n'est pas leur bateau. » Alors, renverser le canot. Nous sommes le lundi 4 septembre 1843 et depuis quelques instants, nous sommes au cœur d'une tragédie qui se joue devant nos yeux. Il est 12h30, c'est l'heure H de mon histoire. Trois heures plus tôt, Charles Vacquerie s'affaire. Le jeune homme de 26 ans est fatigué ce matin. Il se sent comme assommé par la soirée de la veille, durant laquelle il a bu du champagne. C'était un cru de grande qualité, certes, mais cela lui donne toujours des maux de tête pas possibles. Pourtant, aujourd'hui 4 septembre, il lui faut se rendre absolument chez le notaire de la petite ville de Caudebec. Une demi-lieue à parcourir. Rien de bien extraordinaire. Alors, que doit-il faire pour s'y rendre? Prendre la calèche mise à disposition par sa mère ou suivre l'idée de son oncle qui vient de construire un tout nouveau canot de course réputé pour scinder les vagues avec une grande habileté. Sa mère insiste pour qu'il soit rentré pour le déjeuner et donc cela répond à sa question. Nous utiliserons la solution la plus rapide. Tous au bateau donc. Charles est accompagné de son oncle, un ancien marin, et du fils de ce dernier, âgé de 11 ans. Le jeune homme vérifie son allure dans le miroir du vestibule. Il resserre sa cravate, attrape son haut de forme. C'est alors qu'il s'apprête à franchir la porte pour partir que descend sa femme, Léopoldine. Magnifique créature de 19 ans. La jeune femme, enceinte de 3 mois, a des nausées depuis le début de cette grossesse qu'une cartomancienne lui a prédit difficile. Charles lui demande si elle souhaite se joindre à eux pour cette petite virée. D'un sourire, lui déposant sur la joue un baiser matinal, elle lui répond qu'elle n'est même pas habillée. « Pas de problème !» lance le jeune époux, qui enfile ses bottes et part à grandes enjambées en direction du petit embarcadère. Il y retrouve ses deux compagnons de voyage. Le bateau file en direction de Caudebec. Mais assez rapidement, l'oncle de Charles à la barre s'inquiète que l'embarcation n'a pas assez de lest. Il leur faut aller chercher les pierres. Demi-tour donc. Charles descend du bateau d'un saut de puce et va les chercher. En haut des petits escaliers menant à la berge, il retrouve sa femme, venue les saluer de loin, telle Pénélope avec Ulysse dans les textes d'Homère. Elle s'exclame. « Eh bien, puisque vous voilà revenu, je vais aller avec vous. Attendez-moi 5 minutes. » Et revoilà la virevoltante princesse, fille de génie, nous y reviendrons, qui court en robe de chambre dans le vent vers le château. Et Charles de Grandmelet. Ils n'ont pas de temps à perdre. Le notaire n'attend pas, et sa mère d'ailleurs non plus. S'ils sont en retard pour le déjeuner, il n'ose imaginer quel courroux s'abattra sur ses cheveux bouclés. Et alors qu'enfin le bateau prend les eaux en direction de sa destination, la vieille dame qui s'est installée dans son jardin ne peut s'empêcher de s'exclamer « Il fait trop calme. Ils ne pourront pas aller à la voile. Nous déjeunerons trop tard. » Léopoldine, elle, est finalement montée à bord et rit aux éclats. Le destin, parfois, est aussi funeste que cruel. La mère de Charles, effectivement, avait raison. Le vent est retombé, plus aucun souffle ne frôle les feuilles jaunissantes des arbres. Pas un embrun ne vient éclabousser la coque toute neuve. Mais bon, le gouvernail bien employé permet de se diriger, et tant bien que mal, voilà que notre petit équipage arrive à bon port. Léopoldine, elle, restera dans le navire en attendant les hommes, qui partent à grandes enjambées chez le notaire qui les attend de pied ferme. Le sévère moustachu se plaint du retard, un peu, mais pas trop. Ce rendez-vous va quand même lui rapporter de l'argent. Allez, suivez-moi. Oh non, non, voilà qu'il nous referme la porte au nez alors même que nous nous apprêtions à rentrer. Impossible donc pour nous de connaître l'essence même de cette entrevue. Dans le bateau, il semble que Charles avait parlé de l'achat d'une propriété. Peut-être est-ce cela dont il s'agit. Une petite demi-heure plus tard, le visage du notaire a changé du tout au tout. Il est radieux. Certainement l'échange fut-il pour lui bénéfique. Tellement bénéfique qu'il propose à ses visiteurs de prendre sa calèche personnelle pour être reconduit à temps pour le déjeuner. Charles hésite longuement. Il fait des calculs, mais son oncle, lui, précipite la suite des événements. Son navire est tout neuf. Hors de question de le laisser à quai sur les rives en ville. Voilà. Voilà, la messe est dite. Charles salue le sévère moustachu qui, courroucé du refus opposé à sa proposition, a repris son visage sévère et tendu. Les trois hommes retrouvent Léopoldine qui, soupirant d'ennui, a les mains posées sur son ventre en transformation. L'oncle de Charles, marin d'eau douce depuis des décennies, connaît parfaitement le bateau qu'il vient de fabriquer. Il décide de hisser la voile. Le vent est un peu plus fort et qui sait, peut-être seront-ils portés par lui pour rallier plus rapidement leur point de départ. Le ponton semble si loin et en même temps si proche. En y songeant, la jeune femme est prise d'un horrible pressentiment qui la saisit au plus profond de sa poitrine. Alors même qu'elle tente d'en faire part à son Charles, une bourrasque, surgissant d'entre deux collines, vient tournoyer autour du navire, d'une manière totalement inexplicable. Les éléments vacillent autour d'eux. Le bateau tangue, d'abord un peu, puis brusquement, d'une manière totalement incontrôlable. Soudain, le drame inévitable face à cette tempête locale s'abat sur leur destin. La toute nouvelle et rutilante machine de course se renverse et coule rapidement. Tout cela se passe sous les yeux médusés de la vieille femme, qui n'est pas certaine de ce qu'elle voit. Le pilote qu'elle appelle pour en avoir confirmation lui ment. Non, tout va bien, mais... Et lui aussi, de ses yeux plus jeunes, a tout vu. Il fait appeler les secours qui se précipitent sur la zone. Sur place, les événements tragiques s'enchaînent sans aucune interruption. L'oncle et son jeune fils de 11 ans n'ont pu se rattraper et sont déjà morts noyés en s'enfonçant dans la Seine à pic, bras dessus, bras dessous. Charles, lui, excellent nageur, réapparaît en surface. Depuis la berge, un témoin le voit hurler, mais il pense que le jeune homme s'amuse. Son hurlement est un appel, en fait, en direction de sa femme qu'il ne voit pas. Plusieurs fois, il plonge et il replonge, une fois, deux fois, trois fois, six fois en tout. Mais avec la force du désespoir des noyés, Léopoldine, qui ne sait pas nager, s'est accrochée à la coque et s'enfonce avec elle. Plus rien n'est possible, plus aucune solution ne pourra la sauver. Alors, tel un Roméo avec sa Juliette, le tout dans le cadre d'une tragédie bien maritime, Charles décide de replonger une septième et dernière fois pour la rejoindre dans le royaume de Neptune. Un dernier coup de vent et les secours retrouvent 4 cadavres qu'ils viennent déposer au pied des escaliers de la demeure de la vieille femme qui les attendait pour déjeuner. Elle refuse de croire qu'ils sont tous morts. Pourtant, le doute n'est déjà plus permis. Léopoldine, âgée de 19 ans, est le joyau d'une famille qui va rapidement s'effondrer sous le poids de la douleur. Son père n'est pas avec elle au moment de son décès. Il revient d'un voyage en compagnie de sa maîtresse, des vacances en Espagne. C'est le journal, seulement 4 jours plus tard, qui lui apprendra la mort de son enfant. Ultime paradoxe pour l'écrivain à la plume fleurie. Le père de la jeune accidentée enceinte, vous le connaissez toutes et tous. Et son art, à tout jamais, va en être transformé à cause de cette horrible perte. Il s'appelle Victor. Victor Hugo. Nous sommes le 9 septembre 1843. Il est 11h. Et nous nous trouvons dans la magnifique ville cossue de Rochefort, dans le sud-ouest de la France. Fatigue des chevaux oblige, on change au relais de poste les montures. Les voyageurs qui se trouvent dans cette calèche à destination de la capitale ont donc quelques heures pour se promener. Mais notre héros du jour, Victor Hugo, vous l'aurez compris, lui, n'a pas très envie de flâner. Il laisse sa maîtresse se promener en ville et lui s'en va commander un café au Café de la Paix. Un café et un journal. Le Siècle. Celui qu'il a l'habitude de lire tous les matins. Mais alors qu'il termine son voyage extra-conjugal en amoureux, les premiers jours de trajet depuis l'Espagne l'ont empêché de toute lecture. C'est la première feuille de chou qu'il parcourt depuis des jours. Au milieu de sa troisième gorgée et à la quatrième page, il voit passer de manière presque anodine dans une colonne le nom de son gendre. Tiens, une nouvelle affaire commerciale en route. Et puis, cité à côté, sa fille. Voilà déjà que c'était moins normal. Et puis, les affaires de son gendre dans un quotidien national, on n'en est quand même pas encore à ce niveau de renommée. L'écrivain, déjà star depuis notamment son dernier gros succès, Notre-Dame de Paris, se frotte le menton dépourvu de barbe. Et alors qu'il reprend intrigué la lecture de l'article depuis ses premières lignes, celui dont les cheveux tombent sur ses épaules et à la cravate bien lisse n'est pas prêt à subir le choc qu'il s'apprête à recevoir. Victor Hugo, ce matin-là, dans un petit café bruyant du sud-ouest, apprend par hasard la mort de sa fille chérie. Elle fut l'aînée d'une fratrie de 5 qui a déjà perdu Léopold, son frère, voilà des années. Léopoldine, c'était, sans faire ombrage à sa sœur Adèle et à ses 2 autres frères, sans nul doute, sa préférée. Elle était celle avec laquelle il échangeait, partageait les mêmes centres d'intérêt. Elle était la seule autorisée à relire ses écrits et à en faire la critique. Ce matin-là, Hugo perd une fille. Mais l'auteur perd une muse, un moteur. Plus rien ne sera jamais pareil pour le grand homme de littérature. Oh, il ne le perçoit pas de manière instantanée, mais la douleur qui s'empare de lui et qui s'installe va devenir son arme principale pour le reste de sa vie. Victor Hugo, victime d'un blackout qui le laisse pantois sur sa table, ne sera sorti de son état de léthargie que par le cafetier, qui vient lui signaler que la calèche est prête à repartir. Jamais plus, il ne sera capable de se souvenir avec précision des événements qui ont suivi ce moment où il a pris cette terrible nouvelle. Son cœur s'est fissuré. Son âme, mortellement touchée, dévoile un trou béant et cherche déjà un moyen de s'en sortir. C'est là toute la force de notre inconscient, cette magnifique machine, aussi minutieuse et aussi bien réglée qu'une belle horloge. Nous n'en sommes pas toujours l'horloger. Et parfois, une force presque surnaturelle vient prendre le dessus et nous anime, avec vigueur, avec passion. Une sorte d'instinct de survie face à une douleur mentale qui, dans les cas les plus extrêmes, peut aussi attaquer le physique. Et alors que l'équipage au grand complet reprend la route en direction d'une capitale que pourtant il aime, Hugo se sent vide. Il n'est même pas capable d'annoncer à sa maîtresse la terrible nouvelle. Non, non. Au lieu de ça, il lui tend le journal. Bien plus tard, à l'exhumation de son journal intime, on lira ces quelques mots à côté de la funeste date du 9 septembre 1843. On m'apporte de la bière et un journal, le siècle. J'ai lu. C'est ainsi que j'ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur était morte. Le poids des mots. Victor Hugo arrive quelques jours plus tard à Paris. Très vite, il se rend sur les lieux du drame et sur la tombe de sa fille et de son gendre. 6 mois de mariage seulement, et la tombe pour lit de noces. Alors qu'on lui apporte les vêtements portés par Léopoldine, l'auteur remarque, comme d'autres avant lui, à quel point ils sont déchirés. Preuve, s'il en fallait une, que son gendre, à chaque plongée, a tenté de sortir de son piège de bois sa femme, quitte à arracher quelques plis de la robe. Mais hélas, comme nous le savons déjà, nous aussi, ces tentatives furent vaines. Victor Hugo ne se réfugiera pas immédiatement dans la douceur d'une écriture reposante pour évacuer une souffrance qui ne cesse de le dévorer. Non, non. Il doit déjà faire face à 2 phénomènes bien distincts et tout à fait redoutables. Le regard de ses proches et surtout, la culpabilité. Les bouleversements qu'entraîne cette disparition sont bien entendu immédiats dans tout le cercle formé par la grande famille des Hugo. Sa femme, Adèle Fouché, le fixe du regard de l'inquisiteur. Logique contemplation d'une mère en pleine souffrance et qui cherche des coupables. Il faut dire qu'au moment des faits, Hugo est avec sa maîtresse, Juliette Drouet. C'est une relation de plus qui, loin d'être passagère, dure depuis 10 ans. Elle durera encore 4 décennies. Il est coutume, lors d'une union, de se promettre fidélité et présence jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il est donc cocasse, dans le cas présent, que cet amour de plusieurs décennies entre une actrice en vogue et l'auteur des Misérables soit adultérin. Soit. Adèle Fouché regarde son mari avec les yeux de Minerve, mais elle n'est pas en reste. Bourreau de travail, Victor Hugo l'a délaissée. Alors elle est partie, elle aussi, se consoler dans les bras d'un autre, notamment dans ceux de Sainte-Beuve, critique littéraire et écrivain lui-même. Mais dans la souffrance, la recherche d'une culpabilité, quelle qu'elle soit, devient parfois une quête prioritaire. On fait abstraction du contexte, plus rien n'est rationnel, tout devient flou et l'émotion, ce qui est bien normal après tout, prend le dessus, sans aucune mesure. Ses enfants, eux aussi, s'interrogent sur cette absence et sur ce voyage et le juge du regard. Ainsi Victor Hugo, qui, disons-le clairement, n'avait pas besoin de ça pour lui-même se flageller, sombre dans une culpabilisation que rien ni personne, si ce n'est sa maîtresse, ne pourront enrayer. Il se reproche d'abord de ne pas avoir été présent, ni au moment du drame, ni à l'enterrement de son aîné. Il se reproche également ce voyage à l'étranger, avec son alter ego adultérin, et verse parfois lui aussi dans l'irrationnel. Comment aurait-il pu, aussi brillant soit-il, empêcher le bateau de se renverser et sauver sa fille qui ne savait pas nager, en robe et en chaussures, au beau milieu de la Seine? Par quel miracle, quand on connaît hélas la durée de vie extrêmement courte de l'être humain sous l'eau en apnée, aurait-il pu modifier le cours du destin? Il n'aurait pas pu le faire, bien entendu. mais son esprit qui souffre est sur une corde raide. Cette corde, parfois très fine, entre la raison et la folie. Mais comment reprocher à un père qui a perdu sa fille de souffrir et prendre le risque d'éteindre l'essence même de son être? Mais alors que certains auraient flanché, que d'autres se seraient murés dans une douleur digne des plus imprenables forteresses, Hugo, lui, est né dans une autre classe, celle des combattants, des guerriers, des génies aussi. De ceux qui sortent par le haut des épreuves qui, comme la souffrance, deviennent fondatrices. Victor Hugo, assurément, change son destin lui-même, avec sa plume, au travers de ses mots. Il va rendre hommage à Léopoldine, déjà, mais au-delà de cela. Il va totalement changer sa manière de comprendre le monde, d'appréhender les choses de la vie, les grandes comme les petites, et donc de les décrire, de les transmettre, de les écrire. L'ancien Victor Hugo est certainement mort le 9 septembre 1843. Mais sans aucun doute, un nouveau a pris sa place, né de la cuisse de Jupiter et béni des muses. Il est devenu messager de la vie, transmetteur des émotions vives et profondes.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, mon heure H se penche sur l'une des épreuves les plus difficiles traversées par un génie de la littérature française, Victor Hugo. En 1843, le père de 5 enfants, qui a déjà perdu son premier garçon, est confronté à l'accident mortel de sa fille chérie, Léopoldine. Elle se noie dans le naufrage d'un petit navire de plaisance et son père n'est pas présent au moment des faits, ni lors des obsèques. Cette souffrance immense, tant dans la perte que dans la culpabilité, va le transformer et finalement le faire se sublimer. Nous sommes le 3 septembre 1847. Il est 23h30. Dans une demi-heure, voilà 4 ans que la pire épreuve de la vie de Victor Hugo aura eu lieu. L'homme qui termine d'écrire ces lignes est presque dans un état second. Il a les traits du visage considérablement marqués, presque insouciant face aux ravages de la vie. Le départ de sa fille l'a fait mûrir à vitesse grand V, transcendant ses émotions et ses mots. Avant, on le connaissait et l'appréciait pour ses nombreuses pièces de théâtre à succès et certaines de ses œuvres littéraires déjà majeures. Comment ne pas penser à Notre-Dame de Paris ? Mais ce soir, pourtant, comme en préambule à la journée d'horreur qui s'annonce, c'est un poème qu'il vient de terminer à la plume et sur une feuille de papier écornée. Il signe le papier de son nom et ajoute la date qu'il ponctue d'un point. Comme pour se souvenir de ce moment précis de folie d'écriture, comme pour tenter de conjurer le mauvais sort qui s'acharne sur lui et apaiser une souffrance qu'il ne parvient plus à canaliser. Hypersensible dans ses émotions, hypersensible dans son art, il a rédigé les derniers vers en pleurant. C'est un message à sa fille, dont le souvenir s'efface avec le temps qui passe. Il le termine de cette manière, à la veille de ce sordide anniversaire. Sur la table de son bureau parisien, la bougie s'apprête, elle aussi, à mourir dans un dernier éclat de lumière. Dehors, la fin de l'été se fait déjà sentir et, dans les gouttières en zinc, quelques gouttes tombent en pagaille. La lune en croissant éclaire les toits et les nuages qui masquent les étoiles de la Voie lactée, bien chargées de ce début de septembre. Un chat, sur les corniches du bâtiment en face, vient déranger la tranquillité et le repos de quelques oiseaux qui se sont installés là. Mais le chasseur repart bredouille. Les escadrilles de piaf sont plus malignes que lui ce soir. Alors le mat tout mouillé vient se cacher sous le toit et fait sa toilette, machinalement. À peine dérangé par cet échec. Quel flegme! Il doit étrangler celui-là, se dit le poète qui replonge son regard dans les étoiles. Il attend. Un message, quelque chose. Il le sait. Il en est certain. Elle est là. Il n'en a jamais eu la preuve matérielle, mais tout dans son cœur lui laisse croire que rien n'est fini et que tout commence. Elle l'inspire. Et parfois, il croit presque sentir dans les couloirs son parfum ou entendre son rire. Pourtant, la seconde d'après, tout cela a disparu. Et c'est la frustration qui fait son retour. Quelques minutes d'égarement et Hugo replonge sur sa feuille au mot tracé. Il faut lui trouver un titre dorénavant. Le poète cherche d'abord dans son imagination, ne trouve rien, et se penche sur ses premières phrases, les premiers mots. Voilà, qu'il en soit ainsi. Ce poème s'appellera « Demain dès l'aube », parce qu'après tout, c'est en 4 septembre que tout a commencé. Il saisit le papier encore frais d'encre, se tourne face à la fenêtre et, fier de son travail, déclame aux étoiles ces quelques vers. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Demain dès l'aube est une œuvre majeure de Victor Hugo, qui pourtant va rester au placard longtemps. L'auteur la joindra à son recueil de poèmes, certainement réputé comme étant le plus célèbre, Les Contemplations. Il ne paraîtra dans les librairies qu'en 1856, soit près de 9 ans après l'écriture de ce texte qui rend hommage à sa fille. Cette œuvre nous permet d'analyser l'état d'esprit dans lequel est l'auteur, 4 ans jour pour jour après la mort de Léopoldine. Les indices qu'il laisse sont légion. D'abord, il adresse à un destinataire qui reste inconnu sa volonté de le rejoindre dans un futur proche, sans se laisser distraire par une quelconque influence de son environnement. Sa volonté seulement, puisqu'il se projette dans le futur, le lendemain matin, à la levée du soleil. Le rebondissement, comme dans toute bonne œuvre de fiction, on le trouve à la fin de l'écrit. Le lecteur se rend enfin compte que le voyage du narrateur n'est en fait réalisé que pour retrouver une personne morte. Seuls les derniers vers nous permettent d'entrevoir la tragédie. Et à la lumière des épreuves traversées par Hugo, il est possible de déduire qu'il s'adresse à sa chère fille emportée par les eaux quelques années plus tôt. Et puis, on fait comme toujours la part des choses entre vérité et légende. Vous vous souvenez ? Nous avons daté l'écriture de ce poème la veille de l'anniversaire de la mort de Léopoldine. Eh bien, disons que le poète aura pris quelques libertés avec les faits. En réalité, il rédige ce texte le 4 octobre, soit un mois plus tard. Bien entendu, la portée symbolique est tout autre. Mais pourquoi avoir travesti de la sorte les dates et les faits ? En réalité, le 4e livre des Contemplations commence par l'évocation de ses propres souvenirs et donc évoquer en filigrane la date anniversaire de la mort de Léopoldine à la fin de l'un des textes est presque un acte de foi qui place la tragédie au cœur même de sa nouvelle existence. En tous les cas, l'écriture de ce texte est telle qu'elle nous permet de comprendre que finalement Hugo parle à sa fille comme si elle n'était pas morte. Que sa disparition n'est peut-être qu'un songe. Ce poème parle aussi de la passion de l'auteur pour la marche et la randonnée, l'une de ses principales activités à l'époque. Certains sont même allés jusqu'à calculer la distance entre la gare la plus proche de la tombe de sa fille et de son gendre. Il aurait ainsi dû parcourir un peu plus de 15 kilomètres à travers la forêt, comme il le note, certes, mais nulle certitude quant à l'existence de montagnes, cependant. Il cherche aussi sans doute à démontrer qu'il est prêt à franchir tous les obstacles possibles pour la retrouver. Enfin, comment ne pas lire dans les vers ni les voiles au loin descendant vers Harfleur un rappel du drame, puisque la bourrasque renversa le canot après avoir gonflé la voile subitement. Les deux derniers vers, eux, renvoient à la tombe des amoureux disparus et à ce qui en fait toujours aujourd'hui le charme incontestable, la présence de Bruyère. Toute l'émotion d'un père qui a vu disparaître sa fille est en tout cas perceptible dans cette démonstration littéraire de grand génie. La vie de l'auteur, elle, n'est pas apaisée après cette souffrance fondatrice. Au cœur de la maison des Hugo, on fonde une sorte de musée consacré à la disparue. Sa chambre est figée et on ne cherchera pas à donner à cette pièce une autre utilité. Dans son immense douleur, Adèle, la mère, y conserve la robe du drame. Ira même jusqu'à y épingler une note qui indique « Robe que portait ma fille quand elle est morte ». Relique sacrée, donc. Cela vous donne certainement des clés pour comprendre à quel point cette tragédie ronge au sang cette famille. Comment cela pourrait épargner la santé mentale de ses membres? Si les parents et les deux garçons semblent réussir à y faire face, avec plus ou moins de succès, le décès de sa grande sœur va en revanche totalement ravager la plus petite de la fratrie, qui porte le même prénom que sa mère, Adèle. Un peu plus d'un an après le drame, elle se rapproche amoureusement du jeune frère du mari de Léopoldine, qui lui aussi est mort dans l'accident. Devant l'attention portée entièrement à sa sœur post-mortem, la jeune Adèle se considère mal aimée, en particulier de son père. Elle ira jusqu'à souhaiter dans son journal mourir en même temps que son amoureux pour enfin être considérée par son auguste paternel. Elle perd pied mentalement, incapable de se remettre de cette soudaine et cruelle disparition. Elle sera incapable aussi de surmonter cette jalousie irrationnelle qu'elle ressent envers une morte, tant bien même est-ce sa sœur. Comble de la malédiction pour son père. Le seul de ses enfants qu'il ne va pas enterrer, c'est précisément Adèle qui finira internée, considérée comme folle. Mais il aime sa fille pourtant et insiste régulièrement pour lui rendre visite. Ce que les médecins finiront par lui interdire face aux crises de démence insensées vécues par la jeune femme à chaque contact qu'elle a avec son père. Écrivain de génie, mais père maudit. La vie donne, mais elle sait aussi reprendre, parfois avec fracas. Victor Hugo, sur la scène publique, s'empêtre aussi dans une affaire qui va lui coûter bien des années d'exil. Lui, le fils d'un général de Napoléon, se dresse contre l'autoritarisme mené par Napoléon III, neveu du premier et empereur des Français depuis 1852. La répétition de ses violentes attaques contre le régime le contraint à fuir aux frontières maritimes de la France, entre la Normandie et l'Angleterre. En particulier sur une île, celle de Jersey. C'est là, selon la légende, que Victor Hugo rencontrera le fantôme de sa fille aînée pour la première fois.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, notre heure H s'intéresse à l'impact du plus grand drame vécu par Victor Hugo sur sa vie et son inspiration. Sa fille, Léopoldine, meurt noyée à la suite d'un tragique accident et devient pour toute la famille une figure sacrée qui soude les fragments éclatés du cercle familial par sa supposée présence. La douleur, vive et parfois irrationnelle, laisse croire au poète que Léopoldine le suit toujours et qu'elle est présente à chacun de ses pas. Alors qu'une période d'exil forcé s'ouvre à lui, il va se familiariser avec Jersey, avec une toute nouvelle expérience pour lui, celle du spiritisme. Nous sommes le 11 septembre 1853. Il est 15 heures. Il fait beau dehors. Mais à Marine Terrace, lieu de résidence des Hugo à Jersey, les volets sont fermés. Seul, un filet de soleil permet aux participants d'un étrange rite de se distinguer les uns des autres. Cette grande bâtisse à toit plat, immaculée, est battue par les vents. Ses nombreuses sorties de cheminées sont rongées par le sel. Elle est aujourd'hui le théâtre d'une bien sombre affaire. Les Hugo et des amis sont réunis autour d'une table. Ils sont à peine une dizaine et tous se tiennent la main dans un rite qui devrait les conduire à entrer en contact avec les esprits. C'est la première fois que Victor Hugo expérimente ce genre de pratique. Et il en a les mains moites. Immédiatement, alors qu'on lui demande à qui il souhaite parler, un nom sort d'entre ses lèvres. Léopoldine. Déjà, il note sur un carnet ce qu'il se passe. Soudain, un esprit se présente à eux. Au centre de la table, un dispositif permet aux fantômes de répondre aux questions. Lorsque celle qui dirige le processus de spiritisme demande son nom à l'esprit, il répond « fille ». Pour Hugo, c'est une certitude, c'est Léopoldine qui est en face de lui. Un violent flot d'émotions vient se déverser dans sa poitrine. Il lui demande si elle est heureuse. L'esprit lui assène un lapidaire. Oui. C'est l'unique et la seule fois que Hugo demandera l'esprit de sa fille. Victor Hugo et son fils Charles ont débarqué le 5 août 1852 sur l'île de Jersey. Il n'était pas seul. Toute la famille était déjà là. Adèle mère, Adèle fille, pas encore internée, son amoureux, toujours le frère du mari de Léopoldine, sont présents sur place depuis le 31 juillet. Sa maîtresse, elle, arrivera le lendemain. Tout un programme. Condamnée à l'exil politique, pétri de souffrance, l'auteur se livrera quasi quotidiennement à des séances de spiritisme, comme c'est en vogue chez la bourgeoisie de l'époque. Il est loin, en effet, d'être un cas isolé. Et s'il a rencontré entre début septembre et début octobre une fois l'esprit de sa fille, du moins c'est ce qu'il interprète, il est également persuadé d'avoir eu la visite des plus puissants de notre monde. Tenez-vous bien. Galilée, Molière, Shakespeare, Cain, Platon et même Jésus. Mais il pense avoir aussi rencontré des concepts. La mort, le drame, la critique. De quoi vous inspirer un homme, aussi illustre soit-il. Ces entretiens, tous consignés assidûment par les participants, conduiront à la publication du livre des tables, recueil de ses résultats. Ces séances vont nourrir également les deux derniers livres des contemplations, le recueil n'étant pas encore publié à l'arrivée de l'auteur sur l'île, et quelques pièces de théâtre. C'est finalement Jean Gaudon qui résume le mieux tout le questionnement autour de ces pratiques de l'auteur. Il note ceci. Il est difficile de déterminer si les tables ont pour effet de combler un vide ou de le créer. Si la fréquentation des esprits diminue la propension de Hugo au vertige ou si, au contraire, elle l'aiguise. En tous les cas, elles vont nourrir son inspiration. L'engouement se terminera à la mi-octobre, lorsqu'un jeune homme du groupe débarque dans la maison avec un fusil, menaçant de tuer tout le monde. Fin de l'histoire et des séances. Et déménagement pour les Hugo sur la deuxième île de leur exil, Guernesey. La suite de la carrière littéraire de Hugo sera une véritable symphonie de succès. Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, 93, de nombreux recueils de poésie et de pièces de théâtre. En bref, son inspiration folle et totalement incontrôlée durera jusqu'à sa mort. Alors d'après vous, est-ce que le drame qui marqua sa vie pour toujours ne serait finalement pas à l'origine de la différence de ton et du volume de production qui vont suivre ? Cela n'a-t-il pas été le moteur de l'expression de son art ? Oh, loin de moi l'idée de suggérer que la mort de sa fille a façonné l'écrivain qu'il est devenu, car il était déjà fort célèbre avant le tragique accident. Mais toujours est-il que ses moyens d'expression, à la suite de cet événement, ont changé. En tous les cas, je vous laisse maître de vous faire votre propre avis à ce sujet et de nous le partager. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec l'une des citations du grand homme. Cachée au creux des pages de son roman Notre-Dame de Paris, elle évoque l'amour en tant que concept et en tant que souffrance. Et alors même que sa fille, à l'heure où il écrit ces mots, est toujours vivante, on peut s'étonner de leur portée symbolique et, qui sait, prémonitoire, il écrit. C'est que l'amour est comme un arbre. Il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans tout notre être et continue souvent de verdoyer sur un cœur en ruine. Et ce qu'il y a d'inexplicable, c'est que plus cette passion est aveugle, plus elle est tenace. Elle n'est jamais plus solide que lorsqu'elle n'a pas de raison en elle. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.